As you've probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10, place your first bet on any game, and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager.
Looking for the best place to buy tickets for any of your favorite teams or sporting events? We've got the spot. Our partner, StubHub, has been the leading ticket marketplace in the world for over 20 years, providing a 100% guarantee with every order. From a worldwide selection of live events, the widest choice of tickets and industry-leading partnerships, StubHub has what you need to purchase with confidence. StubHub, an official partner of The Athletic.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Support Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Bonne année 2022. C'est l'émission du mercredi 5 janvier. Je suis Marc-Antoine Godin en compagnie de Arpin Basu. Bonjour Arpin.
Salut Marc-Antoine, bonne année à toi, bonne année à nos auditeurs. J'espère que le temps des fêtes a été plus le fun pour vous autres que ça a été pour moi et oui. Ma famille. Là. On était enfermés pendant tout le long, là, mais bonne année à tout le monde. Puis... on est prêt à attaquer 2022 en espérant que ça soit meilleur que 2021.
Oui, absolument, absolument. Je suis content de te savoir remis sur pied bien comme il faut. Écoute, aujourd'hui, on va lancer l'année 2022 avec une émission quand même assez occupée, même si le Canadien, pour l'instant, est en pause forcée à cause de la COVID, que toute l'organisation, finalement, est un peu au neutre à l'heure actuelle. Ça ne nous empêche pas, nous, de discuter de plusieurs sujets d'actualité. Donc, émission chargée aujourd'hui, on va parler de la quête d'un directeur général par le Canadien. Il y a également une nomination qui est tombée aujourd'hui, celle de notre collègue Chantal Maccabée, qui a été nommée vice-présidente aux communications du Canadien. Donc, c'est une bombe en soi. Donc, ouais. Chantal qui vient prendre la place de Paul Wilson, qui a été limogé en même temps que
Chantal,
Marc Bergevin.
Chantal, un ancien invité au podcast.
Ben oui.
Il a déjà paru à notre podcast, alors nous, on peut l'appeler une amie du podcast.
Ah, mais ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Chantal, écoute, je ne lui connais pas d'ennemi d'ailleurs, alors ça, c'est très bien pour quelqu'un qui s'en va faire des communications, surtout dans un poste aussi chaud que celui de vice-président de communication des Canadiens. Et ouais. Également, à l'émission, on reçoit Marc-André Bergeron, l'ancien défenseur du Canadien, qui est vice-président et directeur général des Lions de Trois-Rivières, la nouvelle concession de la ECHL, donc un club affilié aux Canadiens. Il va nous expliquer toute l'expérience de lancer cette nouvelle concession-là dans un contexte de pandémie avec toutes sortes de défis qui sont complexes à relever, mais qui sont également, vous allez le voir, qui le rendent très, très enthousiaste. Mais écoute, Arpin, commençons par un dossier qui va vraiment attirer l'attention, qui va probablement monopoliser l'attention pour des prochaines semaines, la sélection d'un prochain directeur général pour épauler Jeff Gorton. Notre collègue Pierre Lebrun disait en début de semaine que il y aurait une dizaine de candidats qui allaient être interviewés à compter de cette semaine. Certains noms qui sont des noms auxquels on s'attendait, donc Roberto Luongo, Daniel Brière, Mathieu Darche parmi ceux-là. Toi, quand tu regardes cette liste de noms-là, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aurais aimé voir et qui n'y est pas? Ou encore, est-ce que dans cette liste-là, tu sens qu'il y a des personnes en particulier qui font, à tes yeux, figure de favori pour être nommé directeur général?
Non, je pense que c'est la beauté des choses pour le Canadien qu'il n'y a pas de favori. Je pense que ça va être une compétition quand même assez, assez corsée parce que les différents candidats, écoute, on ne connaît pas tous les candidats. J'ose croire qu'il y a des noms sur cette liste-là qui vont nous surprendre. Parce que si on prend Jeff Gorton à ses paroles, si on prend même Jeff Molson à ses paroles, il veut vraiment, vraiment parler à beaucoup de monde qui ne seront pas peut-être des candidats typiques. Les noms qui ont sorti ne sont pas très surprenants à ce niveau-là. T'sais, Roberto Luongo, évidemment, il a eu un peu d'expérience comme administrateur avec Hockey Canada. Il travaille avec les Panthers de la Floride en ce moment. Daniel Brière, qui ancien joueur de longue date, excellent communicateur avec les médias, ce qui est un critère pour le job. Veux pas, c'est important. Mais lui aussi, il fait ses... il fait son démarche dans l'organisation des Flyers au niveau du ECHL. Mathieu Darche, même chose, évidemment. Il travaille avec Julien Brisebois. Puis Anne Bag de la Coupe Stanley aussi. Alors ça, c'est des noms qu'on s'attendait. Mais j'aimerais ça croire que le Canadien a des noms sur leur liste qui ne sont pas typiques pour cette position-là. Puis c'est un peu la beauté de, à mon avis, avoir Jeff Gorton sur place donne aux Canadiens la liberté de chercher du monde qui n'ont peut-être pas l'expérience nécessaire, mais qui ont les compétences nécessaires pour devenir un bon DG, puis travailler en dessous de Jeff Gorton et se développer comme administrateur, comme quelqu'un qui peut gérer le département de hockey. Et sans que Jeff Gorton soit là, je trouve que le Canadien serait très, très, très limité dans le type de personne qu'il peut aller chercher, mais sa présence leur permet vraiment d'ouvrir les possibilités. Puis ça, je trouve ça super intéressant, mais avant, c'est sans savoir tous les noms sur la liste, c'est difficile à vraiment comprendre à quel point le Canadien fait ça. Mais tu sais, comme il y a deux femmes sur cette liste-là qu'on connaît pas nécessairement, il y a des noms qui circulent évidemment, mais le Canadien, ils se sont engagés à regarder. Tu sais, outside the box, c'est le terme en anglais, mais vraiment, de regarder du monde qui sont pas du monde typique, puis les noms qu'on a entendus sont vraiment des noms qu'on s'attendait à entendre. Alors, ça se peut que ces noms-là sortiront jamais, mais je trouve que le Canadien, ils sont allés d'une position qui était comme un peu... Il avait l'air d'être coincé un peu dans leur choix de directeur général. Mais la façon de faire de Jeff Molson, d'aller chercher Jeff Gorton, leur a ouvert beaucoup de pistes de solutions pour cette position-là. Et ça va être fascinant de voir comment ils traversent ces pistes-là.
C'est un petit peu, moi, ça me fait penser un petit peu au, tu sais, par exemple, le Rocket de Laval, cette idée d'avoir d'utiliser la Ligue américaine pour développer des entraîneurs-chefs francophones, puis participer à un renouvellement du bassin d'entraîneurs québécois dans la Ligue nationale, puis d'être capable justement de développer ces gars-là. Ce n'est pas nécessairement des entraîneurs qui vont se ramasser derrière le banc du Canadien, mais qui peuvent au moins se ramasser, se retrouver dans la Ligue nationale éventuellement. Ça a été le cas, entre autres, de Guy Boucher, puis peut-être que ça va être le cas de Joël Bouchard une année ou l'autre. Mais au moins, c'est que ça te permet de rajouter des candidats. Puis tu as tout à fait raison quand tu dis que la présence de Jeff Gorton, ça fait un petit peu la même chose à l'échelle des dirigeants. C'est-à-dire que le Canadien se serait retrouvé dans une position avec les critères que Jeff Molson a établis ou qu'il s'est fixé lui-même. Le groupe de candidats doté d'une certaine expérience était minime. Tandis que là, tu as un gars qui arrive, qui peut agir un peu comme éminence grise, si tu veux, être un peu comme comme un architecte pour développer les plans du Canadien puis son puis la suite des choses, mais d'avoir quelqu'un qui, au quotidien, va être celui qui va opérer, qui va prendre les décisions. Et ça, à ce niveau-là, bien, le fait que ça puisse être quelqu'un qui a moins d'expérience, ça élargit les cadres énormément. Puis c'est pour ça qu'on, tu sais, il y a des noms comme, entre autres, celui de Marc Denis. Je pense que c'est intéressant d'avoir un gars comme Marc Denis qui entre dans la conversation, parce que même si Marc n'est pas un gars qui a de l'expérience comme tel à l'échelle d'un poste de direction au niveau professionnel, c'est quand même un gouverneur chez les Saguenayens de Chicoutimi. C'est un gars qui connaît l'organisation du Canadien de fond en comble. C'est un ancien joueur également. Fait que ça peut donner l'occasion à quelqu'un, en autant que c'est une personne de qualité, une personne qui a une bonne tête sur les épaules puis qui va bénéficier de cette expérience-là pour s'améliorer, bien, de pouvoir travailler conjointement avec un homme comme Jeff Gorton, bien, ça peut servir de tremplin pour faire en sorte que c'est pas... Le Canadien ne ferait pas que développer, entre guillemets, un faire-valoir québécois, mais concrètement, apporterait de l'eau au moulin puis mettrait de nouvelles personnes de qualité en circulation au niveau des dirigeants de la Ligue nationale pour pas simplement qu'on s'en tienne à Julien Brisebois ou à Martin Madden Jr. T'sais.
Oui, mais dans le fond, ce que Jeff Gorton permet, c'est que... Si tu vas chercher un candidat, disons, qui a un background de dépisteur, quelqu'un gars qui est un évaluateur de talent, quelqu'un qui se promène dans les arénas, qui fait l'évaluation des joueurs amateurs pour le repêchage, ben Jeff Gorton peut compléter ces compétences-là. Tu sais, c'est comme ou si jamais tu vas chercher, tu sais, disons, Marc Tudarche, par exemple, c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup au niveau des contrats de... au niveau du plafond salarial, la gestion de ça avec le Lightning de Tampa Bay au cours des dernières années, ça a été de la gymnastique à chaque jour pour eux autres de rester en bas du plafond salarial. Ben là, Jeff Gorton est là pour compléter ses compétences-là aussi, parce que Jeff Gorton, il a un background de scout là, avec Boston, et c'est un gars qui peut compter. Jeff Gorton a toutes les compétences nécessaires pour le poste. Alors, peu importe ce qu'il choisit ou ce que le Canadien choisit comme directeur général, les compétences de cette personne-là pourraient très facilement être complétées par Jeff Gorton avec ses compétences aussi. Alors, dans le fond, avec les deux, et c'est exactement comme Jeff Gorton disait, c'est une équipe de direction à deux. Et ouais. il a insisté là-dessus, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde, moi inclus, en fait, qui croit plus ou moins à ça. Tu sais, je pense que Jeff Gorton, c'est le vice-président de l'équipe, puis après ça, il y a un DG, puis s'il y a une décision à prendre, c'est probablement Jeff Gorton qui va finir à prendre là-dessus, mais lui, il a insisté sur le fait que je veux trouver quelqu'un avec qui je peux collaborer pour prendre les décisions, ce qui n'est pas la façon de faire dans la Ligue nationale, mais je pense que, généralement, je veux dire, mais je vais lui donner le bénéfice du doute là-dessus, puis s'il peut trouver quelqu'un avec qui il peut, les deux têtes combinées, créer un très bon gestionnaire de hockey, les deux ensemble, et chercher quelqu'un qui peut-être complète des choses que Jeff Gorton, il l'a pas. Et on s'entend que, quand il était avec les Rangers de New York, on n'entendait pas trop parler de Jeff Gorton dans les médias. Ça, c'est un aspect du job qu'il aimait un peu moins. Alors, je pense qu'avoir quelqu'un qui est capable de communiquer aux fans et capable de communiquer avec les médias, ça serait quelque chose qui est important pour ce poste-là. Mais je trouve que la présence de Jeff Gorton, vraiment, ça rend ça très imprévisible, ce que le Canadien va faire au niveau de leur directeur général, parce que ça ouvre tellement de pistes à eux autres que c'est difficile de prévoir dans quelle direction ils vont y aller, parce qu'il y a tellement d'options. Puis ça, c'est une bonne chose pour le Canadien, parce que on pensait pendant longtemps que, OK, bon, ben c'est clair que Marc Bergevin ne vient pas. Qu'est-ce que le Canadien va faire? C'est pas comme il a une tonne de possibilités du monde qui peut faire ce job-là. Puis là, il se retrouve dans la situation complètement inverse, où il y a comme vraiment un nombre illimité de possibilités en termes de le profil du personne qui va compléter ce poste-là.
Ben, Jeff Corton également mentionnait qu'il allait chercher quelqu'un qui lui serait complémentaire. Fait que lui, il a un certain nombre d'outils, il a un certain nombre de qualités. Je pense que c'est un homme issu du recrutement, c'est un évaluateur de talent. Je pense qu'il a un bon passé au niveau de gestionnaire, mais il disait lui-même, il dit, moi, j'ai jamais été joueur, j'ai jamais été agent. Fait qu'il veut, je pense qu'il va chercher quelque chose qui, des éléments qui vont être complémentaires à ce que lui apporte, ce qu'il apporte à la table. Sauf que je vais te lancer une question qui peut paraître évidente, mais en même temps, quand on gratte, là, il y a énormément de possibilités. Mais à ton avis, qu'est-ce qui est important chez un directeur général? Qu'est-ce qui fait un bon DG?
Ben, je pense que la réponse à cette question-là est en train de changer. C'est qu'avant, c'était purement l'évaluation de talent. C'était vraiment quelque chose qui était, dans le temps, c'était vraiment ça le job. C'est évaluer quel joueur tu as besoin, puis aussi être capable de bâtir une équipe. C'est deux choses différentes que je pense que des fois faisaient défaut avec Marc Bergevin. Il était quand même un pas pire évaluateur de talent, mais comment ces morceaux-là se mettaient ensemble pour former une équipe, je pense qu'il était plus ou moins bon là-dedans. Alors, ça, c'était l'ancien profil. Là, je pense que le profil est en train de changer où je pense que les équipes professionnelles, dans tous les sports confondus, sont en train de se rendre compte qu'un bon DG, c'est juste un bon administrateur, quelqu'un pour faire du management, tu sais. En anglais, directeur général, general manager, c'est le nom littéral du poste. Alors, faire du management, ça veut dire gérer des personnes, choisir les bonnes personnes pour faire les bonnes choses et s'entourer de différents types de personnes pour que, ensemble, tu as accès à une diversité d'informations pour que tu puisses prendre la meilleure décision possible. Ce que Marc Bergevin, honnêtement, avait pas. T'sais, lui, il s'est entouré avec d'autres mondes comme lui. Il s'est entouré à Scott Mellon, tous les anciens joueurs qui travaillaient avec les Canadiens, à part John Sedgwick. C'était vraiment ça le profil. Alors, il y avait personne pour amener une perspective différente. Alors, je pense qu'aujourd'hui, un bon DG, ça serait quelqu'un qui est capable d'identifier du monde pour les mettre dans les bonnes chaises, prendre l'information, une diversité d'opinions, une diversité de perspectives, et prendre toute cette information-là, puis être capable de prioriser les différentes choses et arriver à une décision qui est basée sur l'information que ton équipe te donne. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de bâtir une équipe, non seulement sur la glace, mais dans les bureaux du Canadien. Alors, c'est quelque chose... ça, c'est ma vision pour un directeur général. Alors, je ne sais pas c'est quoi la vision du Canadien, mais je pense que pour moi, c'est vraiment un gestionnaire que le Canadien veut. Là. C'est quelqu'un qui est capable de manager du monde.
Écoute, en 2018, quand ça fait 10 ans que Jeff Molson était à la tête du Canadien, notre ancien collègue Sean Gordon s'était assis avec lui pour pouvoir... s'était assis avec Jeff Molson pour discuter finalement un bilan de cette première décennie-là à la tête de l'équipe. Puis le rendement ou le travail de Marc Bergevin avait été abordé. Et puis, Jeff Molson avait identifié trois qualités qui, à ses yeux, étaient importantes pour ce qui était, à son avis, un bon DG. Évidemment, dans quelle mesure ces qualités-là étaient spécifiquement adaptées à Marc Bergevin, vous pourrez juger par vous-même, mais Molson disait pour moi, il dit, la première, c'est important qu'un DG ait un œil avisé pour identifier les bons joueurs de hockey. La deuxième, c'est la crédibilité auprès des autres directeurs généraux. Ça prend quelqu'un qui est respecté, qui est digne de confiance. Il dit, troisième chose, c'est un critère spécifique à Montréal, mais c'est d'être capable de prendre des décisions difficiles dans un marché qui est dominé par l'émotion. Et d'être capable donc de prendre des décisions courageuses, de prendre des décisions qui sont sous le signe du leadership, même s'il y a énormément de pression populaire autour. Alors ça, c'est trois critères que Molson avait à l'époque. Je ne sais pas dans quelle mesure il va continuer à aller de l'avant avec ces critères-là. C'est clair que d'être capable d'identifier des bons joueurs de hockey, ça demeure un élément de base, mais je ne sais pas si c'est nécessairement le directeur général qui doit être cette personne-là, les évaluateurs de talent n'ont pas nécessairement besoin d'être les directeurs généraux. Jeff Gorton lui-même, en tant que vice-président hockey, je pense, va très bien servir à ce niveau-là. Plus tu as de bons évaluateurs de talent, remarquez, mieux c'est jamais un défaut. Mais je pense que dans tout ça, être capable d'attirer du talent et de retenir du talent, c'est probablement aussi important, sinon plus pour un directeur généraux, que d'être la personne elle-même qui va être capable d'identifier ce talent-là. Parce qu'il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs façons de reconnaître le talent. Les conseillers, les recruteurs professionnels sont là pour ça. Tu as des adjoints qui vont aller aux quatre coins de la ligue, qui vont pouvoir apporter de l'information à ce niveau-là. De plus en plus, les statistiques avancées vont pouvoir soulever des pierres qu'on ne soulevait pas auparavant. Donc, ce n'est pas seulement le directeur général, parce que c'est la job du directeur général, lui, d'être celui qui va attirer ces bons joueurs-là. Et puis, une fois qu'ils sont là, d'être capable de les retenir, de ne pas se retrouver dans des situations où il va, soit qu'il va se prendre au collet avec eux, qu'il ne sera pas capable de s'entendre avec eux, qu'il va y avoir des mésententes au niveau contractuel, etc. Mais retenir le talent de pointe au sein de ton équipe, puis continuer à aller de l'avant, ça aussi, c'est un élément important. Puis je pense que ça serait bien avisé que le Canadien, de concert avec Jeff Gorton, trouve quelqu'un qui va être bon là-dedans.
Oui, je suis d'accord. Puis honnêtement, de créer un environnement où les joueurs veulent être, parce que les joueurs se parlent entre eux autres, là, et tu veux que... Et tu sais, c'est drôle, l'art Bergevin, avec le Canadien, avait cet aspect-là. Tu sais, les joueurs se sentaient très proches de Bergevin. Il était quelqu'un qui était plus proche des joueurs que la plupart des DG. Tu sais, c'est quelqu'un qui aimait ça, jaser avec les joueurs, savoir comment ça allait, sans faire la job du coach. D'habitude, la plupart des DG, ils laissent les joueurs au coach, puis eux autres, ils restent un peu en background. Marc Bergevin n'était pas comme ça, sauf que en même temps, puis je pense que les joueurs l'ont apprécié, ils apprécient ça. En même temps, ça terminait mal pour tellement de joueurs chez le Canadien. Tu sais, je pense que l'affaire Pacioretty, ça quand même, autour de la Ligue, ça a été comme un peu mal vu que tu laisses ton capitaine être dans cette situation pendant si longtemps, puis ça s'empirait de jour à jour. Bergevin qui faisait rien pour éteindre ce feu-là, parce qu'effectivement, le feu était réel et présent. Puis c'est un gars qui n'a jamais vraiment menti dans les médias. C'est quelque chose que je respecte de lui, là, mais il n'a pas pu... Alors, c'est drôle, mais en même temps que les joueurs qui étaient là avait une belle bonne impression de Bergevin puis aimait la relation qu'il avait avec eux. En même temps, le Canadien, je trouve, a bâti un peu une réputation que les choses peuvent mal terminer avec eux autres. On parle non seulement de Pacioretty, Philippe Danault, la façon que ça terminait avec lui, même avant ça, Radulov, Markov, tout cet épisode-là, il y avait une tendance que une fois que ton temps était terminé avec le Canadien, ça allait mal terminer. Et ouais. Alors, éliminer cette réputation-là autour de la Ligue, puis d'aller plus loin dans ce que tu disais, de créer une impression qu'aller jouer pour le Canadien, c'est quelque part où ils vont prendre soin de toi. En fait, de rétablir la réputation que le Canadien avait avant, à l'époque où c'était vu par tout le monde, tous les joueurs, pas mal, que c'était l'organisation avec le plus de classe, avec les meilleures installations, qui allait tout faire pour que tu sois bien comme joueur. Je trouve que cette réputation s'est effritée un peu dans les dernières années. Alors, il faudrait rebâtir ça. Juste pour ajouter à ce que tu disais, je trouve que c'est quelque chose qui serait important pour la nouvelle direction ici.
Ouais, parce que c'est bien beau avoir des installations ou avoir des moyens au plan matériel pour pouvoir t'assurer que les joueurs ont tout ce qu'ils veulent. Je pense que ça demeure, c'est une business d'être humain d'abord et avant tout. Puis ça, je pense qu'il y a un autre élément dans les qualités d'un directeur général, c'est au niveau de ses capacités de communication, tu sais. D'avoir communication avec le leadership en haut, donc dans ce cas-ci avec Jeff Gorton, avec Jeff Molson également, et communication aussi qui percole vers le bas, d'être capable de pouvoir transmettre ta vision, d'avoir une vision claire, puis de pouvoir faire en sorte que tes qualités de communication font en sorte que la vision est partagée à toutes les étapes. Ça, je pense qu'aussi, ça serait, c'est un élément qui va être important de trouver chez le prochain directeur général. Puis si je peux m'en permettre un autre, tu sais, on parle souvent dans le hockey avec les joueurs, puis je reprends l'expression qu'utilisait souvent Trevor Timmins, les joueurs ont besoin d'avoir une dimension, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir un élément dans leur jeu, une qualité première qui fait en sorte, qui définit leur identité et qui va faire en sorte que leur contribution, match après match, va pouvoir toujours se rabattre sur cette principale, ce principal élément-là, cette principale qualité-là dans leur jeu. Même s'ils traversent des moments difficiles, ils vont toujours avoir cette qualité-là sur laquelle se rabattre. Mais je pense que pour un dirigeant, c'est la même chose. Je pense que tu as besoin d'avoir un domaine d'expertise qui fait que coûte que coûte, là, tu peux toujours te rabattre là-dessus et dire, ben moi, ça, c'est ma force. Puis, je vais définir mon style de gestion à partir de cet élément-là. Puis, probablement que c'est là où, quand Jeff Gorton dit, je vais trouver quelqu'un qui est complémentaire, peut-être qu'il va aller chercher une personne, un homme, une femme, un ancien joueur, que sait-on, qui va avoir justement une dimension, une qualité principale qui va être différente des siennes. Je voulais également souligner le fait que Pierre Lebrun a mentionné dans son plus récent texte sur The Athletic que, selon toute vraisemblance, l'agent Kent Hughes ne ferait pas partie de la première vague d'entrevues. Donc, s'il y a une dizaine de candidats qui vont être interviewés, Kent Hughes vraisemblablement ne fera pas partie de ceux-là. C'était pas évident que lui-même, Hughes, était clairement intéressé par un poste de directeur général parce qu'il a quand même quelque chose, une business quand même assez solide et en pleine expansion avec Quartex Management. Mais le filon ancien agent, à moins d'une surprise, là, j'ai l'impression que seule Émilie Castonguay a l'air de tomber dans ce groupe-là parmi les agents.
Ouais, effectivement. Puis une chose que je pense qui est importante là-dedans, c'est que le Canadien ne cherche pas seulement d'ajouter un directeur général. T'sais. Le directeur général, c'est le premier. En fait, Jeff Gorton, c'était le premier étape. Ensuite, le directeur général. Puis après, ils vont bâtir une équipe de management. Jeff Gorton a déjà dit qu'il voulait quelqu'un qui s'occupe des statistiques avancées, quelqu'un qui est capable de, en fait, être pour travailler avec les données. Dans le fond, c'est plus que les statistiques avancées, quelqu'un qui peut traduire les données en information pour l'équipe. Puis c'est une équipe qui veut bâtir. C'est pas juste une personne qui veut engager pour faire ça. Il veut engager un paquet de personnes là-dedans. Puis il y a des postes, tu sais, Scott Mellenby n'est plus là. Il y a une poste d'assistant DG à remplir. Il y a plusieurs postes à combler ici. Ouais. Alors, il faut pas s'attendre juste sur le DG. Il y a un paquet de postes qui sont disponibles. Alors, ça va être super intéressant à voir comment les différents. Tu sais, parce que quand tu parles de dimension, oui, le DG pourrait avoir cette dimension-là, mais ce serait important d'aller trouver d'autres dimensions dans d'autres postes pour faire en sorte que l'équipe au complet soit une bonne équipe. Un peu comme bâtir une équipe sur la glace, c'est d'avoir des différents éléments pour qu'effectivement le DG et Jeff Gorton aient toute l'information possible pour prendre les décisions.
Ce qui est drôle, juste compléter là-dessus, parce que Jeff Gorton, c'est un ancien des Rangers de New York. Puis il y a une critique qui a déjà été envoyée aux Rangers à une autre époque avant Jeff Gorton, à l'ère de Glenn Sather. C'était que l'équipe de direction des Rangers de New York était un country club. Et puis, on a entendu la même critique à l'égard des Canadiens sous Marc Bergevin, justement. Mm-hmm. Les anciens joueurs, la gang, la gang de gros biceps qui étaient ensemble, tu sais, qui avaient une communauté de pensée un peu semblable, puis pas nécessairement beaucoup de gars qui amenaient des éléments différents. Puis là, Jeff Gorton arrive dans un nouvel environnement, celui du Canadien, et va coordonner vraisemblablement ou a l'occasion de coordonner la mise sur pied d'un groupe qui va être autre chose qu'un country club, qui justement va pouvoir amener des avis très différents, des avis complémentaires, puis pouvoir faire en sorte que ce soit la richesse des opinions puis la richesse des compétences qui fasse avancer ce groupe de direction-là au lieu que ce soit une pensée unique dans une certaine mesure.
Oui, alors on verra. C'est quelque chose que je pense pas que, même si les entrevues commencent cette saison, je pense pas que c'est un processus qui va être
cette semaine.
Très, très rapide. Cette semaine, oui, c'est ça, mais le processus, je m'attends pas à avoir une décision là-dessus très prochainement. Peut-être que je me trompe, mais je pense que les Canadiens vont prendre leur temps puis, pour prendre une décision là-dessus. Mais écoute, en parlant de gestionnaire, on était chanceux de recevoir un gestionnaire dans l'Organisation du Canadien pour l'émission aujourd'hui. Marc-André Bergeron, comme on a mentionné, qui est vice-président et directeur général de l'équipe de la ECHL, les Lions de Trois-Rivières, filiale du Canadien, puis qui est en train de vivre, en fait, une première saison quand même assez... ouais, c'est ça. Avec beaucoup de perturbations, beaucoup de défis avec le COVID et tout ça. Alors, quand on revient à notre entretien avec Marc-André Bergeron.
Alors, notre invité cette semaine au Super Athlétique, nul autre que Marc-André Bergeron, qui est vice-président et directeur général des Lions de Trois-Rivières. Vous avez entendu parler, évidemment, de la nouvelle concession de la ECHL, les Lions de Trois-Rivières. Donc, Marc-André, ancien défenseur du Canadien, ancien président des Aigles de Trois-Rivières, l'équipe de baseball de la Ligue CANAM. Alors, merci d'être avec nous, Marc-André. Bonne année à toi.
Merci, fait plaisir. Merci de m'accueillir.
Ben écoute, c'est... Vous êtes beaucoup dans l'actualité ces jours-ci. C'est assez fascinant comme début d'année. Écoute, on va remonter un petit peu la filière puis le début de saison des Lions, mais commençons dans le vif du sujet parce que ce avec quoi vous négociez en ce moment même, parce que tout le monde est au courant de la vague de COVID qui touche les Canadiens, qui a touché par extension le Rocket de Laval. Mais vous aussi, vous avez les deux mains dedans parce que vous êtes chargé de fournir des joueurs quand le besoin est au Rocket. Mais là, vous-même, vous étiez tellement en manque de joueurs que vous avez dû suspendre vos activités pour quelques temps.
Bien, c'est qu'à notre retour de notre voyage aux États-Unis cette semaine, d'Adirondack plus précisément, on a eu 11 cas qui s'est développé. Donc, c'est déjà que on est supposé d'avoir un certain nombre de joueurs avec nous du Rocket de Laval. Présentement, ce nombre-là est à 0. Bien, il est à 1, c'est Cédric Desruisseaux, mais Cédric n'est pas disponible, il y avait la COVID. Cédric est d'ailleurs dans le processus de retour. Il devrait être disponible pour nos prochains matchs. Et puis, avec 11 cas qui est sorti, on n'a aucun joueur de Laval. Je veux dire, c'était pratiquement impossible pour nous de jouer. Et puis, je ne pense pas que ça aurait été responsable non plus. Là, on a quand même un souci de santé de nos joueurs. Puis, donc, on est en pause. On ramène graduellement les joueurs à l'activité, ceux qui n'étaient pas sur le voyage recommence à patiner aujourd'hui, puis tranquillement, là, on va être de retour vers une équipe de hockey.
Mm-hmm. Ben oui, ben tu sais, tout le monde a vu pendant le voyage du Canadien en Floride et en Caroline une vague de joueurs du Rocket de Laval, ce qui veut dire que le Rocket est quand même assez affaibli. Ça tombe à Trois-Rivières après, alors je pense pas que le monde comprend, parce que dans le fond, il y a une certaine chaîne de fournir des joueurs. Le Canadien est capable d'aller piger à Laval, Laval est capable de piger chez vous. Vous autres, vous allez piger où là, quand vous avez besoin de joueurs? Là, ça vient d'où? Là?
Bien, c'est majoritairement la Ligue nord-américaine de hockey. C'est vraiment... Tu sais, la qualité des joueurs de la Ligue nord-américaine est vraiment exceptionnelle. Tu sais, si je me fie aux autres équipes dans notre Ligue qui doivent aller chercher des remplaçants un peu partout, c'est vraiment pas la qualité que nous, on a la chance d'avoir. Ça démontre... Moi, c'était un peu ma vision depuis le début. Tu sais, on se doutait bien que tout le monde... C'est pas un secret pour personne. Là, dans la ECHL, il y a un mouvement de personnel, il y a une réalité de devoir t'approvisionner des joueurs continuellement. Et puis, je le savais déjà depuis le début, ça fait des mois que j'étais en négociation, en pourparler avec les gens, les dirigeants de la Ligue nord-américaine de hockey. Parce que c'est un peu comme moi, là, quand le Rocket m'appelle et ils me disent « Bon, mais Marc-André, après la pratique à Trois-Rivières, dit à Peter Abandonato, à Sean Ouellet-Saint-Amand, à Kevin Poulin, puis mettons à Charles-David Beaudoin qui s'en vient à Laval, t'sais, on s'entend que je ne fais pas un party le soir. Là. C'est comme
ça. Ouais, c'est ça.
C'est difficile, mais c'est un peu le même principe pour les équipes de la Ligue nord-américaine quand je les appelle, puis que je leur prends des joueurs. Mais je pense qu'on a une bonne collaboration, puis on va apprendre un peu à travailler ensemble, tout le monde.
Oui, parce que c'est drôle, parce que je me suis, en pensant au Lyon, je me suis remémoré la phrase d'un ancien professeur que j'avais au secondaire qui disait, dans l'expression, c'était quand Westmount a le rhume, Saint-Henri se mouche. C'est-à-dire que quand en haut de la pyramide, il y a des problèmes, c'est ceux qui sont en dessous qui en souffrent finalement le plus. Puis tu sais, ça découle, tu sais, ça va d'une étape à l'autre. Puis finalement, c'est ça, vous en avez souffert d'une certaine manière. Puis justement, soir après soir, de gruger, vous assurer d'avoir suffisamment de joueurs, de dire, OK, à soir, on va-tu jouer à trois trios, à soir, on va-tu avoir tout notre monde? Même sans la COVID, la réalité d'une équipe de la CHL, c'est énormément de mouvements, énormément d'instabilité. C'est quoi la clé, à ton avis, pour pouvoir apporter de la stabilité à un modèle qui, intrinsèquement, n'en a pas beaucoup?
Bien, ouais, c'est bien dit. Là. Tu sais, je veux dire, je n'ai pas de baguette magique, je n'ai pas de solution magique. Je pense que nous, l'idée d'avoir une équipe majoritairement québécoise donne un sentiment d'appartenance que là, je pense que même les gars de la Ligue nord-américaine, tous ceux qui viennent nous donner un coup de main depuis le début de la saison, apprécient leur expérience. On a la chance d'avoir un Colisée flambant neuf, des installations qui sont haut de gamme. Fait que, tu sais, quand les gars viennent, on a une excellente équipe. En plus, on gagne la majorité du temps. Fait que, tu sais, quand tu mets l'ensemble de ces atouts-là, ben, je pense qu'on donne le goût aux joueurs d'être chez nous. Puis je pense que c'est un peu là, mais je veux dire, le Canadien, quand eux autres font un coup de fil, ils appellent à Laval, ils reçoivent des gars. Laval font un coup de fil, m'appellent moi, ils reçoivent des gars. Mais moi, là, faut que j'appelle les 6 directeurs généraux, un coup qu'il y en a un, deux qui rend des joueurs disponibles. Mais là, je parle aux joueurs. Des fois, le joueur, ça y tente pas. Moi, mon travail là, est quand même vraiment compliqué. Mais je me dis un peu que du même titre que le rôle de président que j'avais avec les Aigles. Moi, je suis jeune, j'aime ça. Ça me fait apprendre plein de trucs. Ça me fait développer un réseau qui est immense. Donc, en bout de ligne, puis quand j'ai travaillé fort, que je donne des joueurs à notre coach Éric Bélanger, puis qu'on se présente au Colisée, qu'on a un alignement en plein, puis qu'on gagne les matchs, ben je dis, ben mission accomplie, puis c'est à recommencer de moi.
Ouais. C'est un peu là-dessus que je serais intéressé de t'entendre un peu expliquer le processus. Tu viens de mentionner, tu appelles au 6DG. Tu sais, le Canadien, ils ont un paquet de dépisteurs qui vont voir la Ligue américaine, par exemple, puis peut-être il y en a d'autres qui vont voir les CHL. Toi, c'est quoi ta connaissance de la Ligue nord-américaine de hockey? Comment est-ce qu'il y a des joueurs que tu dois cibler ou est-ce que tu dépends vraiment des directeurs généraux et c'est leur opinion là-dessus? Comment est-ce que ça marche pour choisir les joueurs dans la Ligue nord-américaine? Et une fois que c'est choisi, est-ce qu'il faut signer ces gars-là un contrat quelconque pour qu'ils viennent jouer avec vous autres?
Ben, il y a plusieurs questions. Là. La première, je vais répondre, c'est que présentement, on a quand même la chance d'avoir une super de belle relation avec les Canadiens. Nick Carrière est présent à la majorité de nos matchs. John Sedgwick est venu voir de nos rencontres. Il y a plein de monde de l'organisation avec qui je parle. C'est Claudine Crépin. Peu importe les besoins qu'on a, les Canadiens sont là, Laval est là, donc c'est très apprécié, ça nous aide beaucoup. Puis je pense que ça donne de la crédibilité à la structure qu'on essaie de mettre en place. Après ça, quand tu y penses, pour nous, là, la SCHL, on peut signer des gars de partout dans le monde. C'est à partir du moment que tu es un 20 ans junior jusqu'à à peu près n'importe quel âge, de n'importe où, t'es possiblement tu peux jouer avec nous. Donc, j'ai pas la prétention, j'ai pas la... de dire que je connais tous les joueurs de hockey puis que j'ai une évaluation parfaite de tous et chacun qui joue à peu près dans n'importe quelle ligue, n'importe où. Fait que, tu sais, j'ai la chance de compter sur deux jeunes tripeux qui, depuis plus d'un an, me donnent un coup de main. Deux vrais passionnés de hockey, qui est Maxime Hamelin, qui est Sacha Clauson, un gars de stats avancés, plus un dépisteur, on pourrait dire, qui va dans les arénas. Puis c'est sûr que ces deux gars-là, pour moi, c'est deux perles, tu sais, je veux dire, ils me donnent beaucoup de support, beaucoup d'options, tu sais, quand on se retrouve dans des situations plus difficiles, mais je vais parler souvent avec eux, je vais parler avec les gens du Canadien pour voir, dans le fond, les quand on parle de, tu sais, c'est sûr que si je signe un gars qui arrive de la France 2, j'ai pas besoin du Canadien. Mais si j'essaie de signer un Kevin Poulin qui arrive d'une grosse ligue, la Suède, ben, tu sais, je me dois de m'accoter avec le Canadien et essayer de trouver une façon qu'ensemble, on va signer un joueur qui est un peu plus high profile. Fait que c'est, en gros, là, ça ressemble à ça, mais plus précisément avec la Ligue nord-américaine de hockey, c'est oui, là, je me dois de passer par les directeurs généraux. On est en train là, d'établir le processus parce que, tu sais, j'y comprends, là, ils ne veulent pas que je communique directement avec le joueur. Puis je pense que c'est fair pour développer cette relation-là aussi, qu'ils voient que je n'ai pas l'intention de garder leur joueur. Tu sais, c'est sûr que pour eux, tu sais, comme présentement, on a Mathieu Brisebois qui joue avec nous, qui est un excellent défenseur à notre niveau. C'est un gars qui, tu sais, je veux dire, dans notre ligue, là, je veux dire, c'est un excellent joueur de hockey. Mais c'est sûr que je me mets des souliers de Jonquière et de Bob Desjardins. Il n'a probablement pas le goût de le perdre. Tu sais. Fait que, je pense qu'avec le temps, ils vont se rendre compte que j'apprécie leur aide. Je ne vole pas le joueur. Puis à long terme, ça va être gagnant pour tout le monde.
Est-ce qu'il, tu l'as évoqué tout à l'heure en disant que John Sedgwick allait voir de tes matchs, que Nick Carrière était là. Tu parlais de Claudine Crépin. Tout le feeling de faire partie de l'organisation du Canadien. Tu sais, il y a eu des affiliations de la ECHL autrefois avec les Canadiens. Bon, le Beast de Brampton, ça avait plus ou moins bien été, mais avant ça, il y avait eu les Cyclones de Cincinnati. David Desharnais avait été issu de cette équipe-là. Il y a eu les Nailers de Wheeling. Là, que ce soit les Lions de Trois-Rivières qui soient là, que ce soit une filiation directe, que ce soit si proche de Laval, en quoi ça change l'expérience aussi pour les joueurs de dire soir après soir, quand on met ce chandail-là, on sent qu'à quelque part, on fait partie de cette organisation-là. Ça doit. Tu parlais de crédibilité tout à l'heure, mais je pense que le sentiment d'appartenance des joueurs eux-mêmes, puis le sérieux de la chose, ça doit vraiment, pour une équipe qui en est à ses tout débuts, puis qui ne se promène pas d'affiliation en affiliation d'année en année, mais qui en est à sa première année d'existence, de pouvoir avoir ce soutien-là, puis d'être partie prenante de cette filière-là. Ça doit vous camper solide, puis vous devez avoir un bon feeling par rapport à ça. Là.
Bien, c'est certain. Puis, tu sais, de voir que, tu sais, de leur côté aussi, tu sais, on sent qu'ils sont présents, on sent qu'ils sont intéressés, on sent qu'ils veulent aider. Tu sais, ça, c'est pas juste nous qui le sentent, tu sais, c'est les joueurs, c'est tout le monde. On est à 1h30 d'auto, là, tu sais, comme la semaine passée, j'ai appelé Jeff, j'ai appelé John, puis je leur ai dit là, on est dans le trouble, il nous manque des joueurs. Est-ce que c'est possible de nous envoyer Peter? Tu sais, dans le fond, ça, il est à 1h30. Mais tu sais, ils ont appelé Peter, ils ont demandé à Peter. Peter, ça y tentait, il est venu. Tu sais, ça donne une idée quand même. Le gars, il est dans la Ligue américaine. On est dans le trouble. On demande de l'aide, ça y tente de venir. Tu sais, ça fait que je pense que ça démontre beaucoup comment que je pense que les gars apprécient jouer à Trois-Rivières et comment on est en train de développer cette relation-là. Tu sais, c'est sûr que si on est capable de se passer des joueurs, là, tu sais, puis tu joues le vendredi avec Laval, tu joues le samedi avec nous autres, puis tu repars avec Laval sur la route après, tu sais, on va, je pense qu'avec le temps, avec les années, on va se développer des façons de faire. Ces jeunes, là, tu sais, en plus, dans une année extrêmement compliquée avec la COVID, avec les blessures du Canadien, tu sais, je veux dire, le Canadien, à un certain moment donné, il n'y a pas longtemps, il y avait, je pense, une vingtaine de gars avec des COVID et les blessés. Je veux dire, selon moi, c'est du jamais vu. Là, fait que, je pense qu'on traverse une tempête dans une première année, tout le monde en même temps. Là, puis je dis tout le monde, le Canadien, nous et Laval. Puis ça va juste, après moi, se faciliter. Là.
Mais commencer à avoir sa première saison dans un contexte de COVID, là, lancer ses activités dans une année de pandémie, je veux dire, c'est pas exactement la meilleure main à se faire donner.
Bien, c'est sûr, mais en même temps... D'une certaine façon, on a l'ignorance de jamais l'avoir fait avant. Fait que nous, pour l'instant, c'est ça qui est ça. Puis, on ne peut pas se dire, hey, il me semble que c'était pas mal plus fun avant, c'était pas mal plus facile avant. On ne l'a pas fait. Fait que j'ose juste croire que ça va être plus facile l'année prochaine.
Oui, puis dans ce contexte-là, tu sais, c'est aussi pas évident de lancer une équipe dans un nouvel marché dans ce contexte-là. J'avoue qu'en octobre, la situation, les circonstances étaient un peu différentes. Qu'est-ce que vous avez fait pour créer ce lien-là avec la communauté? C'est quoi les différentes choses qui ont été faites pour bâtir ce sentiment d'appartenance de la communauté Trois-Rivières envers l'équipe et comment est-ce que ça a été rendu compliqué à cause du contexte qu'on vit en ce moment?
Bien, premièrement, on a un aréna neuf. Ça faisait plus de 30 ans, si je ne me trompe pas, qu'on n'avait pas eu une équipe de hockey junior majeur ou plus haut à Trois-Rivières. Je pense que la communauté était prête à avoir une équipe de hockey. Quand tu rajoutes le nouveau Colisée, je ne sais pas si vous avez eu la chance de venir à l'amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières, mais quand tu rentres à l'amphithéâtre Cogeco, tu vas voir le Cirque du Soleil, par exemple. C'est une expérience complètement grandiose. Tu sais, tu sens que c'est bien fait. Tu sens que le système de son, ça sonne comme des tonnes de briques. Tu sais, le service à la clientèle. Je pense qu'on s'est basé beaucoup sur ce qui se passe à l'amphithéâtre Cogeco pour transporter ça au Colisée Vidéotron, qui donne une chaleur, donne une impression de grandiose quand tu rentres dans le Colisée. Puis, je pense qu'en faisant bien les choses, en démontrant aux gens qu'on est qu'on fait les choses avec beaucoup de cœur, puis beaucoup de passion, puis beaucoup de crédibilité, mais à un moment donné, je pense que ça se place tout simplement un peu naturellement, puis les gens viennent, puis les commentaires sont bons, fait qu'ils en parlent à leurs amis, puis là, ainsi de suite. Présentement, je pense qu'on a 3200 de moyenne de fans par match.
C'est
excellent pour nous, là, tu sais, puis on est bien contents.
Est-ce que, mais justement, c'est aussi développer l'appartenance avec les gens de Trois-Rivières, avoir un produit local. Je pense que ça, depuis le début, c'était quelque chose qui était important. Puis je pense qu'à Trois-Rivières en particulier, les gens de Trois-Rivières, c'est du monde qui ont besoin de sentir que c'est eux qui ont les deux mains dedans, puis que ça leur appartient, puis que c'est pas quelque chose qui est parachuté chez eux, puis ils servent seulement d'autres, entre guillemets, mais il faut qu'ils soient partie prenante de ça. Puis est-ce que sens-tu qu'à ce niveau-là, l'expérience des Lions pour cette première année-là, réussi à bien créer ce lien-là?
Je comprends ton point. C'est vrai que je pense que chaque communauté, chaque ville, chaque région a un peu leur façon de faire. Trois-Rivières, on n'est pas... on est des gens qui ont... Je pense qu'on a besoin comme un peu de se faire prouver que c'est bon avant de dire qu'on embarque. Mm-hmm. On n'est pas les genres à... Je pense à vraiment supporter rapidement. On a besoin d'y croire. Puis c'est comme ça ici, c'est tout. Puis mais je pense que présentement, on est en train de réussir. Par contre, là, les gens sont là. La vibe générale est excellente. T'sais, les gens qui en parlent, ils en parlent en bien, que ce soit les entreprises qui ont acheté des loges, que ce soit... les grands-parents qui viennent avec leurs enfants, que ce soit les joueurs, que ce soit les journalistes. Tu sais, en général, quand les gens parlent des Lions, c'est bien, puis c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on souhaite. Puis c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de... Tu sais, ça se fait pas tout seul. Puis il y a une belle équipe là, qui travaille avec les Lions, puis pas seulement juste au côté hockey, au côté administratif. Puis je pense que tout ça ensemble, l'idée par Mark Waitman, qui fait un travail extraordinaire, là, on est bien chanceux de l'avoir avec nous. Puis ça paraît que quand en haut, ton homme est solide, ça descend dans ta gang, puis nous, on a la chance d'avoir ça.
L'autre chose qui a toujours été intéressant au point de vue développement, puis c'est quelque chose auquel toi t'as parlé dès le départ, c'est de créer un endroit pour que les joueurs québécois puissent aller se développer, puis aller se faire valoir, puis monter l'échelle de l'organisation peu à peu. Évidemment, c'est ton première année, c'est peut-être pas évident à ce niveau-là, mais c'est clair que les joueurs qui jouent avec les Lions, si les Lions n'étaient pas là, ils seraient un peu partout dans le monde du hockey, puis ils ne seront pas chez eux, ils ne sont pas ici, ils ne seront pas dans le giron du Canadien. Y a-tu des joueurs déjà qui te sautent aux yeux, qui disent « OK, bon, ben là, ce gars-là, il prend cette opportunité-là, puis ça pourrait être intéressant, au moins pour Laval, dans les années à venir ou quelque chose, parce que je pense pour la plupart des partisans, c'était ça l'aspect le plus intéressant de cette équipe-là, c'est d'avoir la chance de donner le temps aux jeunes Québécois, aux jeunes joueurs québécois de monter les niveaux puis éventuellement se retrouver à Montréal. Mais évidemment, c'est la première année, on va se calmer un peu là-dessus. Mais y a-t-il des joueurs qui sautent aux yeux déjà?
Mais Harpen, on en a déjà eu un là, qui a joué à Trois-Rivières, qui a joué dans la Ligue nationale cette année, c'est Camelis.
Ben oui, absolument, oui. Ouais, déjà. C'est quand même assez extraordinaire, oui, c'est ça.
Déjà. Donc, on en a déjà un.
Non seulement il était sur le jeu de puissance dans la Ligue nationale, il jouait 6 matchs dans l'ECHL, puis il est sur un jeu de puissance dans la Ligue nationale, je pense que c'est le premier de l'histoire. Là, c'est ça
vraiment, hein. Je l'ai texté Cam après son match pour le féliciter, puis lui dire que dans le fond, tu sais, à tout jamais, il sera le premier joueur des Lions à avoir joué dans le fond dans la Ligue nationale. J'aime, d'ailleurs, c'est quelque chose que moi j'aime faire. Tu sais, je viens peut-être d'une vieille école un peu dans le sens de la façon que les équipes étaient dirigées. Puis, tu sais, les directeurs généraux, tu les voyais pas souvent. Les coachs étaient tough. Il y avait pas beaucoup de relations. Mais moi, je suis tout le contraire. Tu sais, j'aime ça d'être proche des gars. J'aime ça sentir que... J'aime ça qu'ils sentent que je suis accessible, que s'ils ont besoin de moi, tu sais, ils peuvent me parler, je peux les aider de plein de façons. Puis, c'est une relation que j'aime établir comme ça. Puis, j'imagine que ça aussi, ça doit faire partie un peu de notre recette gagnante à Trois-Rivières. Mais je ne veux pas trop en nommer des gars parce que, sans face, on en a beaucoup là, qui sont bons. Puis, je pense qu'on le démontre. On est une équipe qui va très bien performer au niveau de la CHL. Puis, tu sais, il y a souvent comme deux gangs. T'sais, on a notre gang, mettons, qui ont des contrats tout roués avec Laval. On a notre gang qui ont des contrats CHL seulement. Puis, je te dirais que dans les deux groupes, là, surprenez-vous pas d'en voir monter, puis fort possiblement jusqu'à la Ligue nationale. Je pense qu'on a vraiment une force tranquille au Québec. Si on lui donne le temps de se développer, puis d'être dans des environnements performants, avec les outils pour les encadrer, comme on a à Trois-Rivières. Mais je pense qu'on va développer beaucoup plus de gars qu'on l'avait peut-être anticipé. Puis, tant mieux pour tout le monde, tu sais. Tant mieux pour les joueurs, ouais. Tant mieux pour notre organisation, puis tant mieux pour le Canadien, parce que dans le fond, ça, on va lui donner un coup de main en développant des joueurs ici que comme tu as dit tantôt, Harpin, tu sais, qu'ils n'auraient probablement pas dans leur cours. T'sais, un Alexis Daou, prenons par exemple, il joue en Slovaquie l'année passée. T'sais. Sean Ouellet de Saint-Amand joue en Slovaquie l'année passée. T'sais. C'est deux gars qui ont du potentiel pour se rendre au plus haut niveau.
Je me souviens lors d'une conversation précédente qu'on a eue, my God, il y a longtemps, c'est même avant la pandémie, mais le projet était assez. Était tout naissant. Puis tu me disais, tu sais, ce serait le fun que l'équipe de la ECHL de Trois-Rivières, si on était capable de produire, de développer un produit local seulement en l'espace de 5 ans qui se rendrait jusqu'à la Ligue nationale. Juste ça, ce serait suffisant, ça justifierait notre raison d'être. Tu sais, de développer de trouver un David Desharnais, de trouver un Yannick Gourde, de trouver peu importe. Et ça, quand tu dis qu'il y a beaucoup de potentiel, tu sais, qui dort dans la Ligue nationale, en fait, à l'échelle du Québec, d'avoir des gars qui graduent de la Ligue junior majeure du Québec, qui cherchent des endroits où jouer, qui n'ont peut-être pas été repêchés tout de suite, mais pour une raison ou une autre, même s'ils sont passés sous le radar, le talent est là. Je pense que sens-tu que vous allez pouvoir bien vous ancrer pour faire en sorte que vous allez pouvoir, en guillemets, passer la gratte un petit peu puis aller chercher justement de ces joueurs-là qui se cherchent des avenues, qui se cherchent des options et finalement qui peuvent voir qu'ils peuvent s'associer à l'organisation du Canadien rapidement puis en restant proche de la maison aussi.
Ben oui, c'est le but. Comme tu l'as dit, je vais reprendre tes mots, là, passer la gratte, c'est vraiment le but. T'sais, nous, à toutes les années, là, on veut essayer d'avoir les meilleurs joueurs québécois disponibles qui n'ont pas un contrat de la Ligue nationale, dans le fond. C'est vraiment mon but. Je pense que les joueurs l'apprécient. Là, on est à notre première année, on apprend aussi quel genre de joueur qui est peut-être un peu plus intéressant. On apprend un peu tous les twists de tout ça. Fait que je pense qu'on est à s'adapter. On a aussi, il ne faut pas oublier le U-Sport, là, qui est quand même une place qui peut être intéressante pour nous. Il y a certains gars au U-Sport qui sont vraiment là pour les études. Mais à ce temps, avec la pandémie, ce que ça a créé, c'est qu'il y a vraiment une facilité d'aller à l'école et de le conjuguer avec le hockey par l'école à distance, dépendamment du cours que tu choisis. Mais il y a beaucoup de cours. Tu sais, les gars, il y a des étudiants qui sont plus études hockey, mais il y en a d'autres qui sont hockey études. Là. Fait que ceux qui sont hockey études, probablement qu'ils n'étudient pas en médecine. Fait que donc, ils peuvent le faire à distance. Fait que c'est un autre belle quantité de joueurs qu'on peut avoir aussi près de nous à nous supporter. Là. Fait que, non, franchement, on a les yeux grands ouverts, on check tout ça aller, on essaie de collaborer avec tout le monde, d'être bons joueurs parce qu'on sait que oui, on est une nouvelle équipe, puis on dérange, puis on essaye de le faire avec le plus grand respect possible parce que c'est jamais le fun quand quelqu'un qui rentre dans la maison chez vous puis qui ne te le demande pas. Là. Fait qu'on essaye d'être gentleman dans toute notre approche avec tout le monde.
Bon, mais merci beaucoup, Marc-André, pour cet entretien-là. C'était très intéressant. Puis en espérant que le mois de janvier, ça serait un peu plus facile que le mois de décembre pour vous autres. Là. C'est tout ce que j'espère pour vous autres. Là.
Ça devrait l'être parce que là, on ne joue pas avant le 21. Fait que, donc,
ouais, c'est ça.
Ça vous aura donné un match, dans le fond, un match en un mois. Hein? Tu as eu le match 31 puis c'est tout. Là.
On a joué le dernier match avant ça, c'était le 18 décembre. Après ça, le 31. Mm-hmm. Puis là, on ne rejouera pas avant le 21.
Ouais. C'est dommage parce que vous aviez quand même, vous étiez sur un bel élan. Tu sais, au début de la saison, ça, grosso modo, vous jouiez à peu près, vous aviez l'air de jouer un peu pour 500 ou à peu près. Puis là, dans vos 10 derniers matchs, vous en aviez remporté 7, des points dans 8 des 10 derniers matchs. Vous étiez sur un beau momentum au sein d'une ligue qui est quand même, qui a beaucoup de parité quand même. Là. Fait que c'était, je pense que vous avez, je vous souhaite, pour le début de 2022, puis de retrouver justement rapidement cet élan-là, parce que c'est le fun, puis ça aide les gens aussi à accrocher leur intérêt, puis à se développer un intérêt pour cette organisation-là.
Assurément. C'est un peu épeurant, par contre, des équipes qui continuent à jouer, eux, depuis un certain temps. Là, nous, on va peut-être avoir été un mois pratiquement arrêté, mais quand on commence le 21, on va jouer contre des équipes qu'eux n'auront jamais arrêté. Là. Fait que,
mais en espérant que tes joueurs sont de retour, rendus là, puis c'est ça que tu peux compléter un alignement pour ça. Mais merci beaucoup encore. Merci, c'était super intéressant. Puis bonne chance pour la suite des choses.
Ben, merci de m'avoir accueilli, messieurs. Puis on vous attend au Colisée à Trois-Rivières.
Ouais, je serai là un jour. Là. Tu as fait un bon sale job là-dessus. Là. Là, ça me tente beaucoup. Là.
Merci, Marc-André. Bonne journée.
Bye-bye.
Bon, ben super intéressant d'entendre Marc-André Bergeron qui, avec le COVID, puis tout ce qui a frappé le Canadien, c'est je pense que la raison qu'on voulait qu'il soit sur l'émission, c'est pour montrer à quel point ce qui se passe avec le club, le grand club, à quel point ça touche les différents niveaux de l'organisation. Puis je pense que Marc-André l'a rendu quand même assez clair à quel point c'était un défi pour eux autres à Trois-Rivières cette saison.
J'ai bien aimé le fait qu'il mentionne que l'histoire de Peter Abbandonato, qui est rappelé par le Rocket, mais qui accepte quand même d'aller jouer un match avec les Lions pour dépanner. Je dis, c'est pas quelque chose que tu verrais. J'imaginerais pas Ryan Poehling dire, OK, ben là, je suis avec le Canadien, mais le Rocket a besoin d'aide ce soir.
C'est ça, je vais prendre le métro à Laval. Je vais prendre le métro à Laval pour jouer un match. Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est quand même c'est ce qui est intéressant de la structure du Canadien, c'est que avec Montréal, Laval, Trois-Rivières, c'est quand même un triangle qui est très petit. Alors ces choses-là ça a toujours été un des aspects que le Canadien voulait avoir avec l'établissement de cette équipe-là à Trois-Rivières, c'est que effectivement tu peux juste sauter dans l'auto puis être là en moins de 2 heures. Alors c'est ça. Alors écoute, pendant qu'on parlait à Marc-André Bergeron. Le Canadien a sorti la nouvelle que Chantal Maccabée a été nommée vice-présidente de communication de l'équipe pour remplacer Paul Wilson.
Ouais.
On n'a pas sorti le vidéo de notre entrevue avec Marc-André Bergeron, mais pendant qu'on lui parlait, les yeux de moi et Marc-Antoine ont popé en même temps parce que le courriel a flashé sur l'ordi pendant qu'on lui parlait.
Ouais.
Écoute, c'est une embauche parfaite pour le Canadien. Quel coup pour Jeff Molson d'être capable d'aller chercher quelqu'un comme Chantal pour gérer leur communication. Puis Chantal, ça fait longtemps qu'elle est journaliste. Elle adorait ça. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a toujours eu le Canadien à cœur. T'sais, c'est quelqu'un qui couvrait le Canadien, mais tu sais, elle avait un sentiment de vouloir que le Canadien ait du succès. Alors c'est quelque chose que je pense qu'elle va être capable de transférer très facilement à son nouveau poste, puis honnêtement, c'est une embauche parfaite et extraordinaire pour le Canadien. Alors, félicitations à Chantal, mais ça amène un paquet de choses pour... je sais pas comment tu penses que ça va affecter leur communication, parce que c'est quelque chose que Jeff Molson a mentionné, c'est une priorité, puis c'est quelque chose qu'il avait mentionné il y a 4 ans maintenant, que c'était une priorité, puis que ça n'a pas vraiment changé. Comment tu penses que ça pourrait changer peut-être avec Chantal à la tête du communication?
Ben, écoute, j'ai l'impression, à l'époque de Donald Beauchamp, le Canadien était extrêmement corporate, extrêmement prudent dans tout, propre. L'expression que j'utilisais à l'époque, c'était bleu, blanc, beige. Et c'est vraiment ce qui, à mon sens, définissait la façon du Canadien de communiquer. Dans les dernières années, je te dirais, je sens, surtout à partir du moment où Piqué-Subban a été changé, il y a eu à différents volets, de différentes façons, un effritement entre la relation, c'est ma lecture des choses, la relation entre l'organisation du Canadien et son public. Pour une multitude de raisons, les performances sur la patinoire, bon, évidemment, je pense que l'échange de Piqué-Subban, qui est un fan, le favori des fans, pas un favori dans le vestiaire nécessairement, mais celui que les fans préféraient, ça a meurtri beaucoup d'amateurs, puis ça a fait en sorte qu'il y a une distance qui s'est créée. Les performances sur la patinoire, les changements d'entraîneur, le manque de joueurs québécois dans l'organisation, parfois une perception d'arrogance, de condescendance de la part de Marc Bergevin, ou un manque de l'expression me vient en anglais, excusez-moi, mais awareness, un sentiment de un éveil ou une vigilance par rapport à la communauté autour. Tu sais, t'as tout ce qui est entouré, par exemple, le repêchage de Logan Mailloux. Il y avait un manque de sensibilité manifeste de la part de l'organisation du Canadien par rapport à cette décision-là. Et visiblement, l'équipe n'avait pas le pouls de sa communauté en posant un geste comme celui-là. Donc, il y a plusieurs choses qui, à mon sens, dans les dernières années, ont fait du mal à la marque du Canadien et fait en sorte que le lien de confiance, même si au point de vue économique, c'est encore un brand qui est très, très puissant, l'un des plus puissants au Québec, etc. À mon avis, c'est une marque qui est moins acquise d'avance qu'elle l'a déjà été, puis il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Là, tu amènes quelqu'un comme Chantal Maccabé pour présider aux communications, pour faire en sorte que le message se rende à destination. Là où c'est un coup de maître, à mon avis, c'est que Chantal est une rare personne qui fait l'unanimité. Et puis, le Canadien est devenu une marque tellement divisée et qui est tellement, en fait, pas l'exemple, utilisons ce mot-là, que d'amener en son sein quelqu'un qui fait l'unanimité comme Chantal, ça va faire en sorte que les gens vont probablement prêter l'oreille d'une manière différente. Et elle a une sensibilité pour avoir travaillé dans le milieu des médias pendant longtemps, pour être une femme, être une personne également qui a toujours été avec un contact très, très proche avec les amateurs. Je pense qu'elle va pouvoir aider le Canadien à recréer ce lien-là puis à raffermer un lien qui s'est effrité. Fait que je pense que c'est là où c'est le plus important que le Canadien se tourne vers une personne de la trempe de Chantal Maccabée, c'est que cette équipe-là a besoin de renouer pour vrai avec sa base de partisans. Au-delà des performances qu'on a pu voir en séries éliminatoires, bon, c'est vrai qu'il y a eu un moment de frénésie l'été dernier, mais si on regarde là, les 4-5 dernières années, je pense qu'il y a une distance qui s'est créée entre l'équipe et ses amateurs, puis une meilleure communication va pouvoir réduire cette distance-là.
Oui, puis honnêtement, tu mentionnes le choix de Logan Mailloux. Il y avait un nombre restreint de personnes au sein de l'organisation qui ont pris non seulement connaissance, mais qui ont contribué à ces décisions-là. Il y avait Marc Bergevin, il y avait Trevor Timmins, il y avait sûrement Scott Mellenby, Martin Lapointe à un certain point. Il y avait Jeff Molson, évidemment. Mais il y avait aussi Paul Wilson, qui est l'ancien vice-président de communication, qui n'a pas pu expliquer au monde à quel point c'était une mauvaise idée de faire ce choix-là. Et pourquoi c'était une mauvaise idée au niveau de communication, au niveau de gestionnaire de marque du Canadien, comment ça allait faire mal aux marques du Canadien. Et Chantal est quelqu'un... Tu sais, c'est pour ça que quand ils ont nommé Geneviève Paquette pour gérer tout le dossier, tout le aftermath de ça, c'était important pour moi au moins de savoir si quelqu'un comme Geneviève a été consulté avant que le choix de Logan Mailloux soit fait, parce qu'elle gère les actions communautaires du Canadien. C'est quelqu'un qui, honnêtement, dans tout l'organigramme du Canadien, c'est quelqu'un qui est comme sans reproche avec ce qu'elle fait. Là. C'est toutes les choses que le Canadien fait dans la communauté sort de elle. Ça fait longtemps qu'elle travaille pour le Canadien. C'est quelqu'un qui a à le bien-être de l'organisation vraiment à cœur.
Ouais.
Et c'est important pour moi de savoir, est-ce que tu as été consulté? Est-ce que quelqu'un t'a demandé à quel point ça pourrait peut-être nuire à ton travail comme quelqu'un qui est en charge de s'impliquer au niveau du communauté pour l'organisation du Canadien? Est-ce que ce choix-là va te nuire à ton travail? Puis elle a dit non. Elle n'était pas consultée. Alors, dans le fond, là, en ajoutant Chantal McAbish, puis je pense que le Canadien, particulièrement Jeff Molson, a appris de cet incident-là, puis a dit, écoute, on a besoin de plus de diversité de perspectives dans nos décisions hockey. Chantal, c'est clair, elle amène ça. Moi, j'ai eu plusieurs conversations avec elle parce que, tu sais, moi, je suis une minorité qui travaille dans le monde du hockey. Il n'y en a pas beaucoup. Elle aussi. Elle, pendant longtemps, était la seule femme qui travaillait comme journaliste de hockey ou un des seuls qui, surtout, définitivement la seule au Québec, mais un des seuls à travers la Ligue. C'est une pionnière dans ce sens-là. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans ce domaine-là aujourd'hui qui le font à cause d'elle, qui a servi de Chantal comme inspiration. Nous, on a souvent eu des conversations. C'est quoi cet aspect-là d'être minorité dans ce monde-là? Puis, tu sais, on n'est pas des victimes, mais ça donne une certaine perspective sur certaines choses quand, tu sais, je voudrais jamais aller voir les mentions de Chantal sur les médias sociaux. Là. C'est quelque chose qu'elle, il fallait qu'elle gère au quotidien du monde qui le traitait de toutes sortes de choses parce qu'elle est une femme. Elle a cette perspective-là. Elle comprend c'est quoi être. Elle ajoute aux diversités des perspectives au sein du Canadien. Et c'est quand même, c'est pas juste un job de PR. Elle est au sein du haut direction de l'organisation maintenant, comme étant vice-président de communication. Alors, il y a déjà France-Marguerite Bélanger qui va, en fait, Chantal va reporter, c'est France-Marguerite Bergerin qui Bélanger qui gère Chantal McAbey. C'est quelqu'un qui, il y a déjà ça, mais ça ajoute un peu aux différentes perspectives au niveau de l'organisation, puis je trouve que ça aussi, c'est une bonne chose.
Est-ce que tu vois, on va faire la régie interne un petit peu, Harpin, là, puis je vais inclure nos auditeurs là-dedans, mais penses-tu que, au point de vue des relations médias, qu'est-ce que tu penses que ça va changer que Chantal soit là?
Ben, je pense que c'est la première fois depuis que moi, je couvre l'équipe. Alors, ça fait 22 ans que je couvre cette équipe-là. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un dans cette position-là qui a déjà travaillé comme journaliste, qui est le plus haut personne au niveau de communication. Il y a déjà eu d'autres personnes.
Il y a eu Bernard Brisset il y a très longtemps qui avait été journaliste, mais c'est la première depuis Bernard Brisset, je pense.
C'est ça. Puis à un moment donné, il y avait Michel Lamarche qui travaillait dans le département de communication, qui était journaliste aussi.
Ouais.
Mais lui était numéro 3 dans l'organigramme. Alors, c'est la première fois que depuis que je couvre cette équipe-là. Moi, je n'étais pas là à l'époque de Bernard Brisset. Là. Moi, j'ai commencé, il y avait Donald Beauchamp. Alors, Alors, je ne sais pas comment Chantal va gérer ça, mais au moins, il y a quelqu'un qui comprend notre point de vue en termes de médias, qui comprend la valeur de l'accès aux joueurs et de rendre l'organisation au complet accessible aux partisans. Et ce que tu disais au tout début, de rétablir ce lien-là avec leur public, c'est pas mal le mandat que Chantal a accepté. Puis tu peux pas vraiment choisir quelqu'un de meilleur qu'elle pour faire ça, parce que c'est quelque chose qu'elle a déjà fait depuis 30 ans à RDS. c'est quelque chose... Le lien avec une grande majorité des partisans du Canadien, leur lien avec l'équipe s'est passé par Chantal McAbey. C'est vraiment quand elle était même au pupitre de RDS, puis elle a annoncé les nouvelles, puis même comme journaliste. Alors, s'il y a une personne qui comprend très bien la valeur et l'importance de ce lien-là, c'est bien Chantal McAbey. Alors, j'ose croire qu'elle va amener des idées qui sont différentes.
Ouais,
c'est la seule chose que je peux dire, parce que je ne sais pas vraiment comment elle va gérer ça, mais sa perspective est quand même unique de Paul Wilson, Dominique Saillant avant lui, Donald Beauchamp avant lui. C'était tous des gars de PR. C'était tous des gars qui ont passé par la voie de PR, de communication, puis Chantal, c'est pas ça.
En fait, tu sais, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est qu'on a souvent l'impression que une personne se met à travailler pour le Canadien et il y a quelque chose chez le Canadien qui déteint sur toi et fait en sorte que tu vas changer ton comportement et que tu vas te Canadien de Montréaliser. Et là, j'ai hâte de voir, et je pense que ça, c'est un bon test qu'on va voir, c'est-à-dire que est-ce que le Canadien va transformer Chantal ou est-ce que Chantal va transformer le Canadien?
Ouais. Ouais, c'est un bon point. Puis en fait, j'ose croire et j'ose espérer que le Canadien est allé chercher Chantal pour ses qualités. Mmh. Et pas pour le changer. Puis en fait, en connaissant Chantal, comme toi tu le connais, c'est pas quelque chose qu'elle... Je pense que c'est quelque chose qu'elle, elle priorise. Ça serait important pour elle pour dire que moi, j'amène mes idées de comment ce job-là doit être fait. Il n'y a pas grand monde qui savent à quel point ça peut changer pour le mieux, cette relation-là entre leur public et l'équipe que Chantal. Alors, j'espère qu'ils l'ont engagé. Puis en fait, je suis convaincu qu'ils l'ont engagé, que Jeff Molson l'a engagé, puis France Maguire-Bélanger l'a engagé aussi à cause de ça, et pas pour changer ça.
Oui.
Et je pense que c'est une qualité qu'elle amène, qui a été valorisée par le Canadien. Puis tu sais, ça fait longtemps que Jeff Molson veut que ça va mieux avec les médias, entre le Canadien et le média.
C'est vrai.
Et ça n'a pas arrivé. Alors, il y a une façon de faire qui doit changer. Puis, si tu veux changer ton façon de faire, amener Chantal Maccabée, c'est un bon premier pas.
Quand on verra, il y a aussi il va falloir qu'on voit dans quelle mesure Jeff Gorton et le prochain directeur général vont être prêts à laisser les gens de communication travailler sans nécessairement toujours s'ingérer, parce qu'il faut que... Mm-hmm. Tu as une personne de communication, un vice-président de communication, c'est sûr qu'il est là pour aider à transmettre le message, puis il est un peu au service de la haute direction. Mais je pense qu'il faut aussi que les gens aux opérations hockey fassent confiance aux personnes qui sont en communication pour dire, ces personnes-là, ils ont été nommés parce que quand vient le temps de transmettre le message, ils savent comment ça fonctionne, puis ils le savent probablement mieux que moi. Et je pense qu'il y a, sans dire que c'est une chasse gardée, je pense que si chacun reconnaît ses limites et évite de faire trop d'ingérence, j'aurais pas imaginé Paul Wilson aller suggérer à Marc Bergevin qu'il devait rappeler tel joueur ou Donald Beauchamp dire à Bob Guéné, tu sais, Bob, ce serait peut-être le temps qu'on échange Sergei Kostitin. Non.
C'est ça. Ouais.
Alors, à l'inverse, à un moment donné, les assistants directeurs généraux pourraient laisser les gens de communication être ceux qui vont transmettre le message. Je pense que si le Canadien arrive à faire ça, il va beaucoup mieux s'en porter.
Ouais. En tout cas, j'espère que ça va être longtemps avant qu'on voit Chantal Maccabée au bye-bye de fin d'année. Là.
Oui, effectivement. Bon, ben écoute, sur ça, merci tout le monde d'avoir été des nôtres pour cette première édition du Super Athlétique en 2022. On va se souhaiter une année moins mauvaise que les deux précédentes. J'ai l'impression que ce sera... espérons que 2022 ne soit pas 2020 prise 2, prise 3.
Prise 3,
parce que 2021, c'était pas mal, 2020 prise 2.
Oui, c'est ça. Alors, c'est ça le bord maintenant, que ce soit moins mauvais.
Moins mauvais.
C'est pas que ce soit meilleur, c'est moins mauvais maintenant. Alors, moi aussi, j'espère, c'est tout ce que je veux, que ça soit moins mauvais.
Exact. Oh, alors, là, oh my God, hein, on est, nos attentes sont rabaissées, mais qu'est-ce que tu veux? On va participer aux séries, hein, c'est ça.
Oui, c'est un peu comme les attentes envers le Canadien, c'est ça, nos attentes envers l'année, c'est pas mal ça.
Voilà. Bon, ben, écoute, merci Arpin, merci tout le monde, puis on se retrouve la semaine prochaine pour la version anglaise de The Athletic Support. D'ici là, le Canadien n'aura pas recommencé à jouer. En fait, son prochain match, pour l'instant, est justement prévu la semaine prochaine face aux Bruins de Boston, à Boston plutôt qu'à Montréal. Mais d'ici ce temps-là, plusieurs séances d'entraînement sont au programme. Le CH, en principe, je pense que s'il arrive à obtenir sa dérogation auprès du gouvernement, va pouvoir réintégrer ses quartiers à Brossard à compter de vendredi. Alors, on va suivre ça. Et puis, ben voilà, d'ici là, bonne semaine à tout le monde.